écoutez Radio Campus 106,6 et comme chaque mercredi à partir de 17h30, eh bien vous avez rendez-vous avec le magazine USTL Info. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Rollet, président donc de l'Université de Lille. Bonjour Philippe Rollet.
Bonjour.
Et Pierre Béac, donc animateur Radio Campus notamment. Donc Philippe Rollet, parler de l'université, ça pourrait nous prendre bien sûr de nombreuses heures. On invite chaque semaine maintenant des personnes qui y ont un rôle important et donc c'est l'occasion de découvrir à chaque fois une facette de l'université où vous êtes venu représenter globalement l'institution et notamment faire état un petit peu de ce grand bateau dans lequel, sur lequel voguent les étudiants, les professeurs, les chercheurs, les personnels de tout genre, et donc voilà une grande maison, on va dire.
Ah, c'est une grande maison que je suis fier de présider, et effectivement, comme vous le soulignez, avec beaucoup d'acteurs qui ont tous un rôle à jouer. Alors les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les étudiants, les personnalités. Donc on est tous sur un grand bateau qu'on conduit ensemble.
On imagine bien, comme un peu une équipe de rugby ou de football, qu'il n'y a pas que les talents individuels qui comptent, mais la solidité de l'équipe et la cohérence et la cohésion.
Oui, c'est tout à fait vrai. Je pense que si une université se développe, si elle devient une grande université reconnue pour sa recherche, pour son enseignement, pour son animation, sa vie culturelle, sa vie sur un campus, eh bien c'est parce que derrière, il y a un grand projet qui est porté par l'ensemble des acteurs de cette université.
Alors justement, quand on parle de grands projets, alors c'est vrai que je regardais un petit peu sur Internet plusieurs universités de la région et je voyais que chaque université avait un petit peu défini déjà, du moins sur le papier ou sur Internet, un projet, c'est-à-dire quelque chose qui constitue la trame, le cœur de ces missions. Est-ce que pour l'Université de Lille, il y a quelque chose qui est assez précis dans ce domaine ?
Ah oui, bon, je pense qu'on ne part pas de rien. On a travaillé depuis quelques années sur le projet d'établissement de l'ILIN, sur le contrat quadriennal. Je pense que c'est un projet qui s'affine, qui s'infléchit normalement. Et bon, c'est un projet qui est pluriel, puisque je pense qu'une université, c'est un ensemble avec des valeurs fondamentales. Et ces valeurs fondamentales, elles sont autour de l'articulation forte entre la recherche, la formation en particulier, et que viser eh bien, une très grande qualité dans ces domaines, et bien sûr dans ceux qui sont autour, qui sont liés, eh bien, c'est ce qui définit un projet d'établissement. Donc l'ILIN veut s'affirmer comme un lieu important de la recherche, bien sûr au niveau régional, mais au niveau national et international, dans des domaines que vous connaissez, qui sont quand même très, 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 très divers, hein, qui sont les domaines des sciences, la physique, la chimie, la mécanique, les nanotechnologies, si on veut définir les choses de façon un peu plus précise, les sciences humaines et sociales. Et puis l'ILIN, c'est aussi un projet de formation. On veut former les étudiants, on veut en faire des citoyens responsables, des personnes avec un bagage universitaire qui leur permettra de s'intégrer bien dans la vie, tant professionnellement que comme individu, comme acteur citoyen.
Alors, c'est vrai que cet accompagnement de l'étudiant, c'est quand même une notion assez nouvelle et visiblement c'est quelque chose qui devient ou qui est présenté comme étant nécessaire. Alors est-ce que l'autonomie de l'étudiant, voire sa liberté par rapport à ce qu'il vient faire dans une université est compatible avec le fait qu'on l'accompagne, sinon le dirige dans ses études ?
Oui, je pense que les étudiants sont des adultes. Alors c'est vrai qu'ils ils doivent être responsables de leur projet personnel et professionnel. On les accompagne, ça ne veut pas dire qu'on les materne. Et bon, les initiatives que l'on peut prendre, par exemple, avec les projets personnels et professionnels, les initiatives que l'on peut prendre pour leur donner davantage d'informations avant même d'ailleurs qu'ils n'arrivent ici à l'université, quand ils sont dans les lycées. Ben, ce sont des initiatives qui les aident à construire eux-mêmes leurs projets. Ils sont des acteurs. Et, alors, ils le sont peut-être plus au fil du temps. Hein. C'est-à-dire que l'étudiant qui est en licence, il apprend pas mal de choses. C'est vrai qu'il n'a pas toute l'information. On doit lui donner. C'est vrai qu'on doit l'accompagner peut-être un peu plus que l'étudiant de master. Mais c'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement.
Merci René. Je souhaiterais quand même, il faut rappeler ce que c'est qu'une université, parce que nous, on est entre nous ici, on se connaît, on sait ce que nous, on connaît bien l'établissement, mais il faut quand même donner peut-être une carte d'identité, une fiche d'identification de l'université. Qu'est-ce que ça représente en nombre d'étudiants, en nombre de personnes qui y travaillent, et quelles sont les incidences et les retombées économiques?
Alors ça, c'est une belle question. Alors, c'est une question piège parce que je suis pas un homme de chiffres,
malgré la
petite réputation que j'ai. Mais très clairement, si on regarde le poids de l'université de Linas, c'est un poids quand même qui est considérable. Hein. On a 18 000 étudiants en formation initiale. On a 13 000, pour un homme de chiffres qui n'aime pas les chiffres, j'en connais quelques-uns, donc 13 000 auditeurs de formation continue, c'est quand même considérable.
Bon, je crois qu'il est la première université en formation continue.
Ah oui, on est la première en bon nombre de domaines. Il faut qu'on soit fier de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on est reconnu aussi dans le domaine de la formation continue.
Combien de personnes travaillent
sur le campus? 2500.
Les enseignants-chercheurs.
Enseignants-chercheurs et puis les personnels administratifs, techniques.
C'est une grosse boîte dans la région.
D'une part, je pense que c'est une grosse boîte. Je vais donner un chiffre. Hein. Le budget de l'université, c'est 70 millions d'euros, d'accord ? Sans les salaires. Bon, si on ajoute les salaires, ça fait à peu près on va arriver à quelque chose qui est pas loin de 200 millions d'euros, d'accord ? Et c'est le budget d'une ville de moyenne dimension. Donc, quand on traite les choses comme ça, ça veut dire que déjà, il y a un impact économique qui est important. Mais cet impact-là, il ne se résume pas à des chiffres. Alors pourquoi on a un impact important? Parce qu'on forme. Je veux dire, ce qui est un des vecteurs importants du développement d'un pays, d'une nation, mais aussi d'une région, mais aussi d'un territoire comme une communauté urbaine, c'est les ressources, les ressources humaines. Et plus ces ressources humaines sont qualifiées, formées, les possibilités de croissance sont fortes. L'autre vecteur de croissance actuellement extrêmement important, c'est la recherche. Et plus on participe à l'effort de recherche, il y a des effets positifs. Et donc, l'université, c'est un véritable acteur du développement local territorial par les différentes facettes recherche, formation.
Alors, on nous fait souvent miroiter certaines universités ou des écoles immensément reconnues. Par exemple, Oxford ou je ne sais pas d'autres grandes.
Ne les cite pas, René.
Justement. Alors, là, j'ai vu un reportage hier à LCP, c'est la chaîne de l'Assemblée.
Du service public pour l'instant.
Ouais. Voilà. Non, c'est une chaîne très intéressante. On découvre pas mal de choses. Et qui présentait un peu comme exemple ces phares, on va dire, de l'enseignement, de la formation. Mais on ne voit pas en Angleterre, par exemple, les autres universités. On a l'impression qu'il n'y a qu'une ou deux super universités et qu'après, il n'y a rien derrière. C'est l'effet que ça donne.
Oui, je ne suis pas certain. C'est vrai qu'on a toujours tendance à parler d'une ou deux universités et puis d'avoir quelques modèles comme ça. Enfin, le système anglais, il est quand même plus complexe. Il y a plein d'universités de valeur. Et donc, je pense que quand les Anglais parlent de leurs universités, ils parlent de façon plus, plus nuancé avec d'autres universités qui font plein de choses. Mm-hmm. Un système universitaire, c'est un ensemble hein, d'universités avec chacune leur rôle à jouer.
Mais alors justement, quand une université
L'ILIN n'est pas Oxford, mais L'ILIN est...
Si, mais
L'ILIN et L'ILIN, c'est bien.
Mais justement, dans ces universités-là, souvent, ce qui est fait, c'est une barrière à l'admission des étudiants.
Ah, oui.
À partir de là, on dit forcément, c'est une bonne école, une bonne université, dans la mesure où déjà, ils ont pris les meilleurs de ce qui se présentait.
Oui.
Donc, comment on voit parce que le but, quand même, de l'université en France, d'une manière générale, c'est de former le maximum de gens au meilleur niveau, c'est ça, hein?
Oui, tout à fait. Alors là, ça pose une question importante, c'est-à-dire, je crois qu'une des missions de l'université est essentielle. Alors surtout dans cette région, hein, je dirais, qui est quand même particulière par son niveau de son histoire, ses indicateurs économiques, hein, comme on dit, qui sont pas toujours de très bons indicateurs, mais qui peuvent évoluer. Je pense qu'une mission vraiment très très importante de l'université, c'est la formation du plus grand nombre. Et ça me semble essentiel. Je veux dire, on n'est pas dans le système, on n'est pas dans d'autres systèmes d'école avec. Et je crois qu'on doit être fier de cette mission. Mais c'est quand même très, très différent. Alors, est-ce un bien ou est-ce un mal ? Moi, je pense que c'est vraiment un bien.
Alors, on a parlé de la formation, ce qui est le but, bien sûr, ici. Mais il y a aussi les étudiants. Est-ce que, en gros, les étudiants se sentent bien à l'université de Lille ?
On leur demandera aussi, selon vous. Bon, maintenant, je veux dire, quel est le rôle d'un président de son équipe ? Bon, c'est de faire en sorte qu'ils soient bien. Alors on peut le faire comment ? On peut le faire, en leur offrant une formation de qualité dans laquelle ils se retrouvent, dans laquelle ils sentent qu'ils sont bien formés. On peut le faire aussi par tout ce qui relève de la vie sur un campus. Tout à l'heure, vous citiez des universités comme ça, anglaises ou américaines. Quand on voyage un petit peu, ce qui est intéressant dans les universités, c'est de voir qu'il y a toujours aussi une vie importante sur un campus et que ça, on a intérêt à développer. Donc on peut faire un certain nombre d'efforts en ce sens. On peut favoriser le développement de la vie associative. On peut donner quelques moyens. Une grande réalisation cette année, mais qui est le produit aussi d'un travail de longue haleine, c'est la mise en place de la maison des étudiants.
Mm-hmm.
Maintenant, c'est faire en sorte que les étudiants soient aussi associés véritablement à la vie de l'établissement. Donc faire en sorte que ils participent au conseil, que leur travail soit reconnu, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'à un moment donné, la vie étudiante se développe ou ne se développe pas.
Voilà,
mais en tout cas, c'est quelque chose d'essentiel.
C'est un petit facteur d'attractivité.
Est-ce qu'ils se sentent bien ?
Ça, on leur demandera.
Il faut leur demander. Moi, je ne veux pas me mettre à leur place là-dessus.
Est-ce qu'on peut dire quand même qu'elle attire ? Et est-ce que, justement, par exemple, on peut avoir une idée des gens qui viennent dans l'université ? Est-ce qu'il y a une attirance extra-territoriale, qui dépasse le cadre français, par exemple ?
Oui. Vous savez, quand vous vous promenez sur le campus, vous voyez déjà la grande diversité. Quand vous voyez, par exemple, des manifestations festives comme Mixité, on voit bien aussi cette grande diversité et l'attrait qu'on exerce sur des étudiants d'autres pays. Et je dirais de façon... tous les continents sont représentés. C'est une longue tradition. Je veux dire, quand vous regardez, par exemple, l'accueil des étudiants, soit dans le cadre de programmes européens, les programmes Erasmus, les programmes que l'on met en place un peu prestigieux, comme les Erasmus Mundus, qui sont rares, mais qui sont aussi des formations très valorisées sur le plan européen. Quand vous regardez le nombre de co-tutelles de thèses, quand vous regardez tout ça, vous avez le sentiment d'une université qui est attractive et qui l'est pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, la qualité de la recherche, la qualité de l'enseignement. Maintenant, on a aussi des étudiants qui bougent. Alors ceci étant, il faut pas se contenter de ça. Il faut mm-hmm. penser aussi qu'on peut faire plus encore, hein, que nos étudiants peuvent faciliter la mobilité internationale de nos étudiants, par exemple.
Alors l'université, il y a, disons, les étudiants classiques, je veux dire, mais il y a aussi des écoles qui sont intégrées à l'université.
Oui,
peut-être
bien
qu'on
sûr.
Pourrait en parler, en évoquer quelques-unes.
Oui, oui. Ah bah on a deux écoles qui sont intégrées. Il y a d'abord Polytech Lille, mm-hmm. hein, qui est une école d'ingénieurs, qui est une composante à part entière de l'université. On a aussi une école qui est Télécom Lille 1, qui est une école qui dépend à la fois de l'université et puis du groupe de Télécom, en fait, qui est Télécom Lille 1, qui est une école qui s'est développée depuis quelques années. Donc on a deux beaux fleurons. Et puis, il y a une troisième école qui n'est pas particulièrement à Lille 1 parce qu'elle est autonome. Comme on dit dans le jargon, c'est un article 43 et qui est l'école de chimie, mais avec laquelle on développe des relations, les relations de recherche, les relations d'enseignement sont extrêmement développées.
Et il y a une autre école qui n'est pas une école en tant que telle, mais c'est ce qu'on appelle nos formations professionnalisées, ce qu'on appelait avant les DESS, qui sont maintenant des Master Pro,
oui.
des gens qui sont formés
oui.
à Bac plus 5, et qui représentent globalement, donc, si on ajoute le France... moi, je dis toujours l'ENIC, excusez-moi.
Oui. oui,
Polytech, l'ensemble des écoles, l'université sort chaque année plus de 1500 étudiants avec un diplôme de professionnel, d'ingénieur.
Oui. Alors, j'aime pas trop l'appellation professionnelle parce que moi, je pense
non, mais c'est
que
ce qui est repris dans les médias régulièrement.
Oui,
on
d'accord.
reproche à l'université.
Oui.
Ah oui, vous formez.
Oui, oui.
Vous formez.
Non, oui, mais ça, j'ai exprimé mon. Mais j'ai vu. Pour moi, l'université forme indéniablement des professionnels. Elle forme des professionnels dès la première année. Je veux dire, quand vous formez un biologiste, quand vous formez un économiste avec un sociologue, je disais biologiste, économiste, je pourrais dire ensuite matheux, physicien,
économiste.
avec un savoir de base qui est extrêmement solide. Que vous formez aussi ensuite à des disciplines transversales, hein, qui peuvent être des étudiants qui vont maîtrisent de plus en plus les langues étrangères, les outils informatiques. Vous formez des professionnels. Et la professionnalisation, elle se limite pas au fait que vous apprenez aussi à un moment donné un certain nombre de techniques de pointe. Donc un étudiant de licence généraliste est un professionnel. Hein, il peut être encore plus professionnel en poursuivant ses études, mais il est faux de dire que l'université ne forme pas des...
Et on a oublié nos copains oui. de l'IAE qui
oui.
forment des ingénieurs commerciaux de gestion.
Oui, oui. Et donc, je pense qu'on forme des professionnels, et pas seulement dans les master pro, pas seulement dans les licences professionnelles.
Donc l'université
dans toutes les...
est le plus gros fournisseur de Bac plus 5.
L'université, je pense, c'est l'endroit où on forme le plus et le plus grand nombre de personnes avec un fort bagage de qualifications. Et ça, on l'oublie tout le temps.
Alors,
il faut le répéter.
Il faut le répéter.
Donc,
Bac plus 5, quel qu'il soit, c'est quelque chose de très haut niveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et avec
dans des conditions pas toujours faciles pour l'université.
Alors on pourrait parler des moyens après, mais j'ai quand même avant d'être président, j'ai eu une expérience de directeur d'études de masters qui ont été soit des masters pro, soit des masters recherche. Moi je sais que les étudiants que l'on forme dans l'un et l'autre cas, les étudiants que l'on forme pour regarder par exemple des étudiants qui font des stages en master 1, pas forcément des master pro, quand on regarde les stages, quand on regarde les appréciations des entreprises ou des institutions qui les accueillent, je veux dire, on n'a pas à rougir. Je pense.
Et nos étudiants sont très bien.
Il faut éviter. Alors c'est vrai que vous m'avez lancé la perche des moyens. Il faut porter un discours qui est un discours sur positif sur l'université. On fait les choses bien. Ce que je pense, c'est qu'on pourrait faire encore mieux les choses si on avait réellement les moyens. Ça c'est clair. Et c'est vrai que si on avait les moyens qui sont ceux des classes préparatoires ou ceux des écoles ou ceux que l'on met en œuvre dans les autres universités étrangères, on pourrait faire des choses plus belles encore. Mais ne soyons pas modestes, même si la modestie, valeur universitaire, nous incite à faire toujours mieux.
Alors, donc l'université, on peut trouver évidemment toutes les formations qui existent sur le site internet de l'USTL. Est-ce qu'il y a en projet de nouvelles formations ou des formations qui vont évoluer par rapport à... Oui. J'allais dire, elles vont toutes évoluer forcément, mais en tenant compte de l'ère du temps.
Oui, alors, il faut pas... d'une part, je vous rappelle un petit peu la mécanique. La mécanique, c'est que tous les 4 ans, nous avons à reformuler notre offre de formation dans le cadre d'un contrat que nous passons avec le ministère.
Et ça va pas changer dans les conditions actuelles?
Non, je pense pas que ça change. Alors, ce qui pourra peut-être changer, c'est la méthode d'évaluation du ministère. C'est peut-être, on l'espère, des évaluations moins tintillonnes et plus soucieuse du dialogue avec les universités. Ça pourrait changer.
Et avec une reconnaissance nationale de diplôme.
Ah oui, non, mais attendez, ça c'est clair. S'il n'y a pas un cadre de reconnaissance nationale des diplômes, c'est impossible. Ça serait vraiment un déclin pour l'université. Alors, ceci étant, on reverra notre offre de formation. Alors, on revoit une offre de formation naturellement. Parce qu'à un moment donné, les universitaires feront des bilans sur leur offre de formation. On peut faire des bilans parce que, à un moment donné, les débouchés ont évolué. On peut constater que ce qui était un produit bien conçu, à un moment donné, a dû évoluer parce que l'environnement technologique change. Donc on est aussi en période, on est toujours en situation où on cherche à améliorer le contenu, la qualité de nos diplômes.
Et ça, on le fait régulièrement. Et ça, l'université est toujours attentive à cette évolution.
Oui.
Les collègues universitaires.
Je pense qu'on a des collègues dans les équipes.
C'est une des richesses de l'université.
On a des collègues dans des équipes pédagogiques qui font un énorme travail, ça c'est clair. Oui, tout à fait.
Dans quelques instants, on va accueillir la directrice de l'espace culture.
Oui.
Donc là, peut-être faire un petit peu la liaison, j'allais dire. Dans cette université, sciences et technologies, on a parlé aussi d'autres formations autour des sciences humaines, etc. La culture, c'est devenu incontournable d'une université, pas seulement pour le lien social ou pour l'aspect festif, ce qui va être développé dans la maison des étudiants, etc., mais aussi d'un point de vue absolu.
D'un point de vue absolu. Alors pourquoi ? Parce que parmi les valeurs fondamentales d'une université, je crois que l'université est forcément un lieu de débat. Et c'est vraiment le lieu où peuvent s'exprimer les débats. Il y a une telle richesse ici, en notre sein, à tous les niveaux, au niveau de tous les collègues qui contribuent au savoir, à la diffusion du savoir. L'université est nécessairement un grand lieu de débat sur toutes les questions, sur les questions qui relèvent des disciplines universitaires, mais qui relèvent aussi des débats de société.
Et il faut que ça le reste.
C'est fondamental. Et je pense que ce qui distingue aussi le monde universitaire d'un autre monde d'enseignement supérieur, c'est bien cette capacité à mener les débats et des débats de très grande qualité. Et je suis certain donc Mme Pointard, là, va nous dire et nous rappeler qu'on fait de grandes choses aussi au niveau de l'ILIN en ce domaine.
Voilà, bien merci Philippe Rollet donc,
merci
de
beaucoup.
Cette intervention. Vous êtes le bienvenu, bien sûr, bah,
écoutez,
quand vous voulez à Radio
Campus. Je trouve que finalement, ces contacts réguliers sont extrêmement importants. Je vous remercie de votre accueil.
Je vous en prie.